Chapitre 3. Le pape et le monde. Ne vous avais-je pas dit que nous aurions des nouvelles à Sens, et de bonnes nouvelles ? Le dauphin, plantant là ses états généraux tout houleux où Marcel réclame la destitution du Grand Conseil et où l'évêque Lecoq, en même temps qu'il plaide pour la libération de Charles le Mauvais, s'oublie jusqu'à parler de déposer le roi Jean, si, si, mon neveu, nous en sommes là. Il a fallu que le voisin de l'évêque lui écrase le pied pour qu'il se reprenne et précise que ce n'était point les États qui pouvaient déposer un roi, mais le pape à la demande des trois États. Eh bien, le dauphin, roulant son monde, s'en est parti hier lundi pour Metz lui aussi, avec 2000 chevaux. Il a allégué que les messages reçus de l'empereur lui faisaient obligation de se rendre à sa diète pour le bien du royaume. Oui, et surtout mon message. Il m'a entendu. De la sorte, les États sont dans le vide et vont se disperser sans avoir rien pu conclure. Si la ville se montrait par trop turbulente, il pourrait y revenir avec ses troupes. Il la tient sous menace. Autre bonne nouvelle. Le Capocci ne vient pas à Metz. Il refuse de me retrouver. Bien heureux refus. Il se met en tort vis-à-vis du Saint-Père et moi je suis débarrassé de lui. J'envoie l'archevêque de Sens escorter le dauphin, qu'accompagne déjà l'archevêque chancelier Pierre de la Forêt. Cela fait deux hommes sages pour le conseiller. Pour ma part, j'ai 12 prélats dans ma suite. Cela suffit. C'est autant qu'aucun légat n'en eut jamais. Et pas de Capocci. Vraiment, je ne peux comprendre pourquoi le Saint-Père s'est obstiné à me l'adjoindre et s'obstine encore à ne pas le rappeler. D'abord, sans lui, je serais parti plus tôt. Vraiment, ce fut un printemps perdu. Dès que nous sûmes l'affaire de Rouen et que nous reçûmes en Avignon les lettres du roi Jean et du roi Édouard, et puis que nous apprîmes que le duc de Lancastre équipait une nouvelle expédition, cependant que l'Ost de France était convoqué pour le 1er juin, je devinais que tout allait tourner au pire. Je dis au Saint-Père qu'il fallait envoyer un légat, ce dont il tomba d'accord. Il gémissait sur l'état de la chrétienté. J'étais prêt à partir dans la semaine, il en fallut 3 pour rédiger les instructions. Je lui disais « Mais quelles instructions, Sanctissimus Pater ! Il n'est que de recopier celles que vous reçûtes de votre prédécesseur, le vénéré Clément VI, pour une mission toute semblable voici 10 ans. Elles étaient fort bonnes. Mes instructions, c'est d'agir en tout pour empêcher une reprise générale de la guerre. » Peut-être au fond de lui, sans en avoir conscience, car il est certes incapable d'une mauvaise pensée volontaire, ne souhaitait-il pas tellement que je réussisse là où il avait échoué naguère avant Crécy ? Il l'avouait, du reste. Je me suis fait rebuffer méchamment par Édouard III et je crains qu'il ne vous en advienne de même. C'est un homme fort déterminé, Édouard III. On ne le contourne pas aisément. De plus, il croit que tous les cardinaux français ont parti pris contre lui. Je vais envoyer avec vous votre vénérabilis frater Capocci. C'était cela, son idée. Vénérabilis frater. Chaque pape doit commettre au moins une erreur durant son pontificat, sinon il serait le bon Dieu lui-même. Eh bien, l'erreur de Clément VI, c'est d'avoir donné le chapeau à Capocci. Et puis, m'a dit Innocent, si l'un de vous deux venait à souffrir de quelque maladie, notre Seigneur vous en garde, l'autre pourrait poursuivre la mission. Comme il se sent toujours malade, notre pauvre Saint-Père, il veut que chacun le soit aussi, et il vous ferait donner l'extrême onction dès que vous éternuez. « M'avez-vous vu malade depuis que nous sommes en route, Archambault ?»« Mais le Capocci, lui, les chaos lui brisent les reins. Il lui faut s'arrêter toutes les 2 lieues pour pisser. Un jour, il sue de fièvre, un autre, il a un flux de ventre. Il voulait me prendre mon médecin, Maître Vigier, dont vous reconnaîtrez qu'il n'est pas accablé de labeur, en tout cas de mon fait. Pour moi, le bon physicien est celui qui chaque matin me palpe, m'ausculte, me regarde l'œil et la langue, examine mes urines, ne m'impose pas trop de privations, ni ne me saigne plus d'une fois le mois, et qui me tient en bonne santé. Et puis, pour faire ses apprêts, le Capocci, il est de cette sorte de gens qui intriguent et insistent pour être chargés de missions et qui, dès qu'ils l'ont obtenu, ne tarissent plus d'exigences. Un secrétaire papal, ce n'était point assez, il lui en fallait 2. Pour quel office ? On se le demande, puisque toutes les lettres pour la curie, avant que nous ne soyons séparés, c'est moi qui ai dû les dicter et les corriger. Tout cela fit que nous ne partîmes qu'au temps du solstice, le 21 juin. Trop tard. On n'arrête point les guerres quand les armées sont en route. On les arrête dans la tête des rois, lorsque la décision est encore hésitante. Je vous dis, Archambault, un printemps perdu. La veille du départ, le Saint-Père me reçut, seul. Peut-être se repentait-il un peu de m'avoir infligé ce compagnon inutile. Je l'allais voir à Villeneuve, où il réside, car il refuse de loger dans le grand palais qu'ont bâti ses prédécesseurs. Trop de luxe, trop de pompe à son gré, un train d'hôtel trop nombreux. Innocent a voulu satisfaire le sentiment public qui reprochait à la papauté de vivre dans trop de faste. Le sentiment public. Quelques écrivailleurs pour qui le fiel est l'encre naturelle, quelques prêcheurs que le diable a envoyés dans l'église pour y mettre la discorde. Avec ceux-ci, il suffisait d'une bonne excommunication, bien assenée. Avec cela, une prébende ou un bénéfice accompagné de quelques préséances, car c'est l'envie souvent qui stimule leur crachat. Ce qu'ils entendent redresser dans le monde, c'est le trop peu de place à leurs yeux qu'ils y ont. Voyez Pétrarque, dont vous m'avez entendu parler l'autre jour avec Monseigneur d'Auxerre. C'est un homme de mauvais naturel, mais de grand savoir et valeur, il faut le lui reconnaître, et qui est fort écouté des deux côtés des Alpes. Il était ami de Dante Alighieri, qui l'amena en Avignon, et il a été chargé de maintes missions entre les princes. Voilà quelqu'un qui écrivait qu'Avignon était la sentine des sentines, que tous les vices y prospéraient, que les aventuriers y grouillaient, que l'on y venait acheter les cardinaux, que le pape y tenait boutique de diocèses et d'abbayes, que les prélats y avaient des maîtresses et leurs maîtresses des maquereaux. Enfin, la nouvelle Babylone. Sur moi-même, il répondait de fort méchantes choses. Comme il était personne à considérer, je l'ai vu, je l'ai écouté, ce qui lui a donné de la satisfaction. J'ai arrangé quelques-unes de ses affaires. On disait qu'il s'adonnait aux arts noirs, magie et autres choses. Je lui ai fait rendre quelques bénéfices dont on l'avait privé. J'ai correspondu avec lui en lui demandant de me copier dans chacune de ses lettres quelques vers ou sentences des grands poètes anciens qu'il possède à merveille pour orner mes sermons, car moi, je ne m'abuse point là-dessus. J'ai un style de légiste. À un moment même, je l'ai proposé pour un office de secrétaire papal, et il n'a tenu qu'à lui que la chose aboutit. Eh bien, il dit beaucoup moins de mal de la cour d'Avignon, et de moi, il écrit merveille. Je suis un astre dans le ciel de l'Église, un pouvoir derrière le trône papal. J'égale ou surpasse en savoir aucun juriste de ce temps. J'ai été béni par la nature et raffiné par l'étude, et l'on peut reconnaître en moi cette capacité d'embrasser toute chose de l'univers que Jules César attribuait à Pline l'Ancien. Oui, mon neveu, rien moins que cela. Et je n'ai nullement réduit mon appareil de maison ni mon nombreux domestique qui naguère provoquait sa diatribe. Il est reparti pour l'Italie, mon ami Pétrarque. Quelque chose en lui fait qu'il ne peut se fixer nulle part, comme son ami Dante, sur lequel il s'est beaucoup modelé. Il s'est inventé un amour sans mesure pour une dame qui ne fut jamais sa maîtresse et qui est morte. Avec cela, il a sa raison de sublime. Je l'aime bien, ce méchant homme. Il me manque. S'il était demeuré en Avignon, sans doute serait-il assis à votre place, en ce moment, car je l'aurais pris dans mon bagage. Mais suivre le prétendu sentiment public comme notre bon innocent, c'est montrer faiblesse, donner puissance à la critique et s'aliéner beaucoup des gens qui vous soutenaient sans rallier aucun mécontent. Donc, pour donner image d'humilité, notre Saint-Père s'est allé loger dans son petit palais cardinalis à Villeneuve, de l'autre côté du Rhône. Mais même avec un train réduit, l'établissement s'est montré vraiment trop petit. Alors il a fallu l'agrandir pour abriter les gens indispensables. La secrétairerie fonctionne mal, faute de place. Les clercs changent sans cesse de chambre au fur et à mesure des travaux. Les bulles s'écrivent dans la poussière. Et comme beaucoup d'offices sont demeurés en Avignon, il faut sans cesse traverser le fleuve en affrontant le grand vent qui souffle souvent là-bas et qui l'hiver vous gèle jusqu'à l'os. Toutes les affaires prennent retard. En outre, comme il a été élu de préférence à Jean Birel, le général des Chartreux, qui jouissait d'une réputation de sainteté parfaite, je me demande après tout si j'ai eu raison de l'écarter. Il n'aurait pas été plus malencontreux. Notre Saint-Père a fait vœu de fonder une chartreuse. On l'a bâtie en ce moment entre le logis pontifical et un nouvel appareil de défense, le fort Saint-André, que l'on est en train justement d'édifier. Mais là, ce sont les officiers du roi qui ordonnancent les travaux. Si bien que la chrétienté, pour l'heure, est commandée au milieu d'un chantier. Le Saint-Père me reçut dans sa chapelle, d'où il ne sort guère, une petite abside à cinq pans attenante à la grande chambre d'audience, parce qu'il a besoin tout de même d'une salle d'audience, il s'en est avisé, et qu'il a fait orner par un imagier venu de Viterbe. Matteo, Giova, quelque chose. Giovanotto, Giovanelli, Giovanetti. C'est bleu, c'est pâle. Cela conviendrait à un couvent de nonnes. Moi, je n'aime guère. Pas assez de rouge, pas assez d'or. Les couleurs vives ne coûtent pas plus cher que les autres. Et le bruit, mon neveu. Il paraît que c'est le séjour le plus calme de tout le palais et que c'est pourquoi le Saint-Père s'y retire. Les scies grincent dans la pierre, les marteaux cliquettent contre les burins, les palans crissent, les charrois roulent, les madriers rebondissent, les ouvriers se hêlent et se querellent. Traiter de graves sujets dans ce vacarme, c'est le purgatoire. Je comprends qu'il souffre de la tête, le Saint-Père. « Vous voyez, mon vénérable frère, me dit-il, je dépense beaucoup d'argent et me cause beaucoup de tracas pour construire autour de moi les apparences de la pauvreté. Et puis, il me faut tout de même entretenir le grand palais d'en face. Je ne peux pas le laisser crouler. » Ah, il me touche le cœur, le pape Aubert, quand il se moque de lui-même, tristement, et semble reconnaître ses erreurs pour me faire plaisir. Il était assis sur un piètre faux-d'Esteuil, dont je n'aurais pas voulu pour siège dans mon premier évêché. Comme à l'accoutumée, il s'est tenu penché tout le long de l'entretien. Un grand nez busqué dans le prolongement du front, de grandes narines, de grands sourcils levés très haut, de grandes oreilles dont le lobe sort du bonnet blanc, les coins de la bouche abaissés dans la barbe frisée. Il est de corps puissamment charpenté et l'on s'étonne qu'il ait une santé si fragile. Un sculpteur sur pierre travaille à fixer son image pour son gisant, parce qu'il ne veut pas de statue debout. Ostentation. Mais il accepte tout de même d'avoir un tombeau. Il était dans un jour à se complaindre. Il continua. Chaque pape, mon frère, doit vivre à sa manière la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La mienne est dans l'échec de toutes mes entreprises. Depuis que la volonté de Dieu m'a hissé au sommet de l'Église, je me sens les mains clouées. Qu'ai-je accompli? Qu'ai-je réussi durant ces 3 années et demie? La volonté de Dieu, certes, certes, mais reconnaissons qu'elle a choisi de s'exprimer un peu à travers ma modeste personne, ce qui me permet quelques libertés avec le Saint-Père. Mais il est des choses, malgré tout, que je ne peux pas lui dire. Je ne puis lui dire, par exemple, que les hommes qui se trouvent investis d'une autorité suprême ne doivent pas chercher à trop modifier le monde pour justifier leur élévation. Il y a, chez les grands humbles, une forme sournoise d'orgueil qui est souvent la cause de leurs échecs. Les projets du pape Innocent, ses hautes entreprises, je les connais bien. Il y en a 3 qui se commandent l'une l'autre. La plus ambitieuse, réunir les églises latines et grecques, sous l'autorité de la catholique, bien sûr. Ressouder l'Orient et l'Occident, rétablir l'unité du monde chrétien. C'est le rêve de tout pape depuis 1000 ans. Et j'avais, avec Clément VI, fort avancé les choses, plus loin qu'elles ne le furent jamais, et en tout cas qu'elles ne le sont à présent. Innocent a repris le projet à son compte, et comme si l'idée lui était venue, toute neuve, par visitation du Saint-Esprit. Ne disputons point. Pour y parvenir, seconde entreprise, et préalable à la première, réinstaller la papauté à Rome, parce que l'autorité du pape sur les chrétiens d'Orient ne saurait être acceptée que si elle s'exprime du haut du trône de Saint-Pierre. Constantinople, présentement en défaillance, pourrait sans perdre l'honneur s'incliner devant Rome, non devant Avignon. Là-dessus, vous le savez, je diffère tout à fait d'opinion. Le raisonnement serait juste à condition que le pape lui-même ne s'expose pas à être plus faible encore à Rome qu'il ne l'est en Provence. Or, pour rentrer à Rome, il fallait d'abord, 3e dessein, se réconcilier avec l'empereur, ce qui fut entrepris par priorité. Voyons donc où nous en sommes de ces beaux projets. On s'est hâté, contre mon conseil, de couronner l'empereur Charles, élu depuis 8 ans, et sur lequel nous avions barre, tant que nous lui tenions haute la dragée de son sacre. À présent, nous ne pouvons plus rien sur lui. Il nous a remerciés par sa bulle d'or, que nous avons dû gober, perdant notre autorité non seulement sur l'élection à l'Empire, mais encore sur les finances de l'Église dans l'Empire. Ce n'est pas une réconciliation, c'est une capitulation. Moyennant quoi, l'empereur nous a généreusement laissé les mains libres en Italie, c'est-à-dire nous a fait la grâce de nous permettre de les poser dans un nid de frelons. En Italie, le Saint-Père a envoyé le cardinal Alvarez d'Albornoz, qui est plus capitaine que cardinal, pour préparer le retour à Rome. Albornoz a commencé par se cheviller à Colla di Rienzi, qui domina Rome un moment. Né dans une taverne du Trastevere, ce Rienzo était un de ces hommes du peuple à visage de César, comme il en surgit de temps en temps là-bas, et qui captive les Romains en leur rappelant que leurs aïeux ont commandé à tout l'univers. D'ailleurs, il se donnait pour fils d'empereur, s'étant découvert bâtard d'Henri VII de Luxembourg, mais il resta seul de cet avis. Il avait choisi le titre de tribun, il portait toge de pourpre et siégeait au Capitole, sur les ruines du temple de Jupiter. Mon ami Pétrarque le saluait comme le restaurateur des antiques grandeurs de l'Italie. Ce pouvait être un pion sur notre damier, mais à avancer avec discernement, et non pas en misant tout notre jeu dessus. Il fut assassiné voici 2 ans par les Colonna, parce qu'Albornoz tardait à lui envoyer secours. Maintenant, tout est à reprendre, et l'on n'a jamais été aussi loin de rentrer à Rome, où l'anarchie est pire que par le passé. Rome, il faut en rêver toujours et n'y retourner jamais. Quant à Constantinople, oh, nous sommes très avancés en parole. L'empereur paléologue est prêt à nous reconnaître. Il en a pris l'engagement solennel. Il viendrait jusqu'à s'agenouiller devant nous s'il pouvait seulement sortir de son étroit empire. Il ne met qu'une seule condition, qu'on lui envoie une armée pour se délivrer de ses ennemis. Au point qu'il se trouve, il accepterait de reconnaître un curé de campagne contre 500 chevaliers et 1000 hommes de pied. Ah, vous aussi, vous vous en étonnez. Si l'unité des chrétiens, si la réunion des églises ne tient qu'à cela, ne peut-on expédier vers la mer grecque cette petite armée? Eh bien non, mon bon Archambault, on ne le peut point. Parce que nous n'avons pas de quoi l'équiper ni lui donner ses soldes. Parce que notre belle politique a produit ses effets. Parce que, pour désarmer nos détracteurs, nous avons résolu de nous réformer et de revenir à la pureté de l'Église des origines. Quelles origines? Bien audacieux celui qui affirme qu'il les connaît vraiment. Quelle pureté! Dès qu'il y eut 12 apôtres, il s'y trouva un traître. Et de commencer à supprimer les commandes et bénéfices qui ne s'accompagnent point de la cure des âmes. Les brebis doivent être gardées par un pasteur, non par un mercenaire, et d'ordonner que soient éloignés des divins mystères ceux qui amassent richesse. Faisons-nous semblables aux pauvres, et d'interdire tout tribut qui proviendrait des prostituées et des jeux de dés. Mais oui, nous sommes descendus dans de tels détails. Ah, c'est que les jeux de dés poussent à proférer des blasphèmes. Point d'argent impur, ne nous engraissons pas du péché, lequel, devenant meilleur marché, ne fait que croître et s'étaler. Le résultat de toutes ces réformations, c'est que les caisses sont vides, car l'argent pur ne coule qu'en très minces ruisseaux. Les mécontents ont décuplé, et il y a toujours des illuminés pour prêcher que le pape est hérétique. Ah, s'il est vrai que l'enfer est pavé de bonnes intentions, le cher Saint-Père en aura dallé un bon bout de chemin. Mon vénérable frère, ouvrez-moi toutes vos pensées, ne me cachez rien, même si ce sont reproches que vous avez à formuler à mon endroit. Puis-je lui dire que s'il lisait un peu plus attentivement ce que le Créateur écrit pour nous dans le ciel, il verrait alors que les astres forment de mauvaises conjonctions et de tristes quadras sur presque tous les trônes, y compris le sien, sur lequel il n'est assis que tout précisément parce que la configuration est néfaste, car si elle était bonne, ce serait sans doute moi qui m'y trouverais. Puis-je lui dire que, lorsqu'on est en si piètre position sidérale, ce n'est point le temps d'entreprendre de renouveler la maison de fond en comble, mais seulement de la soutenir du mieux qu'on peut, telle qu'elle nous a été léguée, et qu'il ne suffit pas d'arriver du village de Pompadour en Limousin avec des simplicités de paysans pour être entendu des rois et réparer les injustices du monde. Le malheur du temps veut que les plus grands trônes ne soient point occupés par des hommes aussi grands que leur charge. Ah, les successeurs n'auront pas la tâche facile. Il me dit encore, en cette veille de départ, « Serais-je donc le pape qui aurait pu faire l'unité des chrétiens et qui leur a manqué? J'apprends que le roi d'Angleterre assemble à Southampton 50 bâtiments pour passer près de 400 chevaliers et archers et plus de 1000 chevaux sur le continent. » Je pense bien qu'il l'avait appris. C'était moi qui lui avais fait donner la nouvelle. « C'est la moitié de ce qu'il me faudrait pour satisfaire l'empereur paléologue. Ne pourriez-vous, avec l'aide de notre frère, le cardinal Capocci, dont je sais bien qu'il n'a pas tous vos mérites et que je ne parviens pas à aimer autant que je vous aime, farine, farine pour m'endormir, mais qui n'est pas sans crédit auprès du roi Édouard, ne pourriez-vous convaincre celui-ci, au lieu d'employer cette expédition contre la France ? Oui, je vois bien ce que vous pensez. Le roi Jean, lui aussi, a convoqué son hoste. Mais il est accessible au sentiment d'honneur chevaleresque et chrétien. Vous avez du pouvoir sur lui. Si les deux rois renonçaient à se combattre pour dépêcher ensemble partie de leurs forces vers Constantinople, afin qu'elles puissent rallier le giron de la seule Église, quelle gloire n'en retirerait-il pas ? Tentez de leur représenter cela, mon vénérable frère. Montrez-leur qu'au lieu d'ensanglanter leur royaume et d'amasser les souffrances sur leur peuple chrétien, ils se rendraient dignes des preux et des saints. » Je répondis. « Très saint père, la chose que vous souhaitez sera la plus aisée du monde aussitôt que deux conditions auront été remplies. Pour le roi Édouard, qu'il ait été reconnu roi de France et sacré à Reims. Pour le roi Jean, que le roi Édouard ait renoncé à ses prétentions et qu'il lui ait rendu l'hommage. Ces deux choses accomplies, je ne vois plus d'obstacle. Vous vous moquez de moi, mon frère, vous n'avez pas la foi. J'ai la foi, très saint père, mais je ne me sens pas capable de faire briller le soleil la nuit. Cela dit, je crois de toute ma foi que si Dieu veut un miracle, il pourra l'accomplir sans nous. » Nous restâmes un moment sans parler, parce qu'on déversait un chariot de moellons dans une cour voisine et qu'une équipe de charpentiers s'était prise de bec avec les rouliers. Le pape abaissait son grand nez, ses grandes narines, sa grande barbe. Enfin, il me dit « Au moins, obtenez d'eux qu'ils signent une nouvelle trêve. Dites-leur bien que je leur interdis de reprendre les hostilités entre eux. Si aucun prélat ou clerc s'oppose à vos efforts de paix, vous le privez de tous ses bénéfices ecclésiastiques. Et rappelez-vous que si les deux rois persistent à se faire la guerre, vous pouvez aller jusqu'à l'excommunication. Cela est écrit dans vos instructions. L'excommunication est l'interdit. » Après ce rappel de mes pouvoirs, j'avais bien besoin de la bénédiction qu'il me donna. Car vous me voyez, Archambault, dans l'état où est l'Europe, excommunier les rois de France et d'Angleterre. Édouard aurait aussitôt libéré son église de toute obédience au Saint-Siège, et Jean aurait envoyé son connétable assiéger Avignon. Et innocent, qu'aurait-il fait à votre avis ? Je vais vous le dire. Il m'aurait désavoué et levé les excommunications. Tout cela, ce n'était que parole. Le lendemain, donc, nous partîmes. Trois jours plus tôt, le 18 juin, les troupes du duc de Lancastre avaient débarqué à La Hague.